Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé.
Est-ce que la Cour pénale internationale pourrait lancer des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, mais aussi d'autres personnalités politiques israéliennes? Quand la question se pose, on en parle avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane.
Salut Alexandre.
Et ça survient à un moment où le Hamas démontre une certaine ouverture envers un cessez-le-feu.
Et Israël aussi. Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre ce que pourrait choisir de faire la Cour pénale internationale et l'envie, peut-être pas soudaine, mais plus marquée, des Israéliens et du Hamas de se retrouver, de trouver un compromis pour permettre à tout le moins un cessez-le-feu, peut-être pas permanent, cessez-le-feu temporaire pour des raisons humanitaires. Parce que tu le disais, il y a cette menace que des mandats d'arrêt soient signifiés par la Cour pénale internationale contre M. Netanyahou ou encore certains de ses ministres, le ministre de la Défense par exemple, mais aussi contre certains leaders du Hamas qui ont évidemment donné des instructions le 7 octobre dernier. Qu'est-ce que la Cour pénale internationale? Ben, c'est cette instance judiciaire supranationale créée par les Nations Unies. En 98, on parle du statut de Rome. Une majorité des pays membres des Nations Unies ont voté en faveur du statut de Rome. Tous les pays n'ont pas ratifié le traité. Par exemple, les États-Unis ne l'ont pas fait. Israël ne l'a pas fait, les Russes ne l'ont pas fait, et on se souvient récemment que cette Cour pénale internationale avait lancé un mandat d'arrêt contre qui, Alexandre?
C'est une bonne question. Rafraîchis-moi la mémoire.
Vladimir Poutine.
Ah oui, puis on a vu les résultats que ça a donné. Hein?
En fait, on a vu deux choses. Tu as raison, les résultats que ça a donné, pas grand-chose, parce qu'il est souverain chez lui, puis Interpol n'ira pas l'arrêter au Kremlin. Mais aussi, je dirais, l'unanimité en Occident pour dire, ben voilà une décision avisée, et il faudrait juste qu'on puisse être capable d'exercer ces mandats d'arrestation. Évidemment, ça a changé aussi la vie de Vladimir Poutine. Il s'est beaucoup moins déplacé, parce que s'il avait à traverser l'espace aérien, on pourrait l'imaginer, est-ce qu'on pourrait intercepter son avion d'un pays qui respecte les décisions de la Cour pénale internationale, parce que ça va jusque-là, est-ce qu'un pays pourrait choisir de détourner un avion dans lequel se trouve le président russe pour le faire atterrir de force parce qu'il a survolé l'espace aérien. Ça a l'air de la science-fiction, mais ça n'en est pas. Et le président russe fait extrêmement gaffe. Il est allé en Chine, pas de danger. La Chine n'est pas non plus signataire. Puis je vois pas les Chinois décider d'appeler Interpol pour dire « Ça y est, on a votre homme, on va vous le livrer pour que la Cour pénale internationale de justice rende un verdict. » Mais là, se retrouve sur la sellette, et c'est très sérieux. Je pense que c'est une pression qui préoccupe beaucoup M. Netanyahou. On le sait depuis une dizaine de jours, c'est la télévision israélienne qui a d'abord parlé de ce que, à Jérusalem, on se souciait d'une pareille décision de la Cour pénale internationale. Depuis quelques jours, ça s'est confirmé. La Cour, évidemment, elle, est tenue au silence. Quand les mandats d'arrêt seront signifiés, on l'apprendra. Mais si ça grouille, s'il y a cette odeur de danger, c'est certainement parce que on n'est pas loin de quelque chose qui pourrait ressembler à une décision de la Cour pénale internationale qui serait très embêtante. Parce que essayons d'imaginer, et là, c'est pas de la science-fiction, si ce mandat d'arrêt est signifié, que M. Netanyahou peut venir en France, est-ce qu'il peut venir au Canada? Parce que nous avons non seulement signé les statuts de Rome, mais on a ratifié le traité. Donc, le Canada serait, s'il respecte ses engagements, tenu d'arrêter M. Netanyahou et de le livrer à la police, aux autorités. Même chose avec le ministre ou des ministres du gouvernement. Je ne sais pas qui sera nommé, seront-ils nommés, mais c'est un vrai souci. C'est la marge de manœuvre, la capacité qu'auront ces ministres et M. Netanyahou aujourd'hui, comme plus tard, de se déplacer dans le monde et de faire valoir le point de vue israélien. C'est très sérieux, c'est une donne nouvelle qui risque peut-être de changer les choses. Est-ce que c'est lié donc à cette volonté renouvelée de s'entendre et de pouvoir imposer un cessez-le-feu, en fait de négocier un cessez-le-feu, et plus encore, de rendre plus facilement accessible l'aide humanitaire à Gaza, parce que c'est de ça qu'on parle aussi depuis 72 heures. Est-ce qu'il y a un adoucissement de la position des protagonistes parce qu'il y a cette menace à l'horizon? Et qu'est-ce qu'on pourra nous faire en Occident si ces mandats sont annoncés, ces mandats d'arrestation? Je nous vois très mal dire « ça marchait avec Poutine, mais avec M. Netanyahou, c'est un allié, les circonstances sont différentes. » Est-ce qu'on peut ainsi faire de la sémantique? J'en sais strictement rien. Mais ça met le gouvernement de M. Netanyahou et les officiels qui seront montrés du doigt dans une position embarrassante, mais ça met aussi tous les alliés d'Israël dans une position extrêmement difficile.
On a beaucoup parlé, Stéphane, des risques d'embrasement là, de ce conflit-là, que ce soit dans le secteur même du Moyen-Orient, mm-hmm. mais l'exportation aussi de ce conflit-là un peu partout. On en parlait dans un autre épisode de ce qui se passe à Sciences Po, à Paris. Ces campements sur les campus aux États-Unis et en fin de semaine, campements sur le campus de McGill.
Alors, j'attendais justement, quand on s'en est parlé vendredi, quand cette contagion allait affecter les universités canadiennes, ouais. et à plus forte raison, je te dirais, anglo-canadiennes. C'est pas que je n'imagine pas de sympathie à l'Université de Montréal ou à l'UQAM pour la cause palestinienne, mais c'est clair que les universités anglophones en Amérique du Nord, c'est un peu là que ça a commencé, sont clairement alignées sur une politique en ce moment de contestation, de manifestation. Et ça ne fait pas plaisir du tout aux autorités politiques américaines. On verra au Canada ce que ça peut avoir comme impact. Mais pour M. Biden, qui est aux commandes, c'est un sentier crête extrêmement étroit à négocier entre la sensibilité qu'il doit afficher à la cause palestinienne, parce qu'il sait que ça pèse aujourd'hui dans l'équation électorale, et le soutien, on a souvent souligné ça, indéfectible du pays à Israël. Et la question des campus universitaires pose des enjeux ou soulève des enjeux qui dépassent largement le conflit israélo-palestinien. Là aussi, je t'en glissais un mot vendredi, c'est toute la question de ce qu'est la liberté d'expression qui se pose en ce moment, puis je dirais l'hypocrisie d'une certaine droite américaine, de certains gouverneurs républicains qui est mise au jour. C'est un peu vrai aussi en France, je serais tenté de dire, parce que Sciences Po, grande école, qui a beaucoup changé au cours des 15 ou 20 dernières années, je pense qu'on peut sans se tromper dire qu'elle s'est wokifiée beaucoup avec une volonté politique de ceux qui sont aux manettes à Sciences Politiques de changer les choses, de rendre l'institution plus ouverte à l'époque, d'embaucher, peut-être pas le bon mot, de recruter des étudiants qui viennent d'horizons plus divers. C'était une très belle idée que de faire en sorte que ça ne soit pas justement le seul petit privilège d'une minorité bien avisée de certains étudiants qui, pendant longtemps, en sciences politiques, se retrouvaient, disons-le, entre eux. Alors aujourd'hui, à Sciences Po, manifestation depuis des semaines, c'est une épine dans le pied du gouvernement pour bloquer les accès, protester évidemment sur ce qui se passe à Gaza, demander à ce que on refuse de boycotter en fait les institutions qui sont associées à la machine militaire israélienne, comme on le demande sur les campus universitaires puis américains. Et je dirais que le moment qui a mis le feu aux poudres, c'est quand la présidente de l'Université Columbia, pas très loin de chez nous à New York, a témoigné au Congrès il y a une quinzaine de jours. Elle avait, avec un génie certain, évité, je ne sais pas si tu te souviens, en décembre, quand les patronnes de trois grandes oui. universités Ivy League, MIT, l'Université de Pennsylvanie, et puis Harvard, avaient témoigné. Puis Mme Stefanik, une représentante républicaine habile, ex-étudiante d'Harvard, disait « Ouais, mais C'est quoi votre politique quand on invite au génocide contre les Israéliens? Est-ce que ça, c'est de la liberté d'expression convenue, acceptable? Est-ce que ça contrevient à vos règlements? Et les trois présidentes pétrifiées dans une espèce de novlangue super uber woke, incapables de répondre là-dessus en disant « oui, ça dépend du contexte », alors que des professeurs avaient été quasiment congédiés, sinon congédiés pour avoir mégenré, pour je dirais pas des broutilles, parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'est une broutille, mais avoir été intolérant dans le passé sur certains enjeux. Et là, plein de circonspection, c'était d'autant plus débile qu'en matière de liberté d'expression, l'incitation à la violence, elle n'est pas tolérée. Donc, c'était facile de répondre « ben non ». Cet appel à l'antisémitisme primaire, au génocide, c'est non seulement débile, c'est interdit. Elles ne l'ont pas fait et elles ont été sanctionnées très sévèrement. Deux des trois ont perdu leur job, ont démissionné après avoir évidemment résisté. Mais c'est une politique de communication qui était absurde et qui nous ramenait justement à des enjeux sur la liberté d'expression dans les campus universitaires où on disait les agendas, puis je déteste l'expression « woke », font qu'un certain nombre de choses ne se discutent plus. C'est pas possible. Alors, elles ont perdu littéralement la tête lorsqu'elles ont témoigné et leur job un peu plus tard. Madame Shafik, elle, avait extraordinaire un rendez-vous urgent à l'étranger, ne pouvait pas être présente, elle avait échappé à ça. Elle a été rappelée il y a deux semaines. Et là, soudainement, seule en scène, c'était prise d'eux. Alors, elle avait été super bien briefée, elle s'est dit... La liberté d'expression, oui, mais il y a des limites. Je vais montrer que nous, on est responsables. Et elle se met dans une position plus qu'embarrassante. Et j'en ai glissé un mot là aussi vendredi, quand un représentant lui dit « Ouais, mais vous avez un professeur qui, dans un de ses articles, a employé des expressions, un ton à l'endroit de la Palestine éminemment contestable. » Et elle s'est mise à balbutier, à faire des ballons, parce qu'elle avait dit non, nous serons fermes, il y a des choses qui sont acceptables, d'autres pas, et elle se met à faire des ballons, et éventuellement, elle prend une décision administrative on the spot, littéralement. Elle va pas congédier devant le Congrès le professeur, c'est un titulaire, il est titularisé, c'est pas possible. Mais elle dit, il y a certaines de ses responsabilités administratives qui devront être revues et corrigées, effectivement, parce qu'il a dépassé les bornes. Tu décides pas ça au Congrès, tu décides pas ça quand on te pose des questions, tu retournes auprès de tes instances et là tu vois si le processus pour éventuellement l'évincer peut être fait en fonction de quel crime, parce que le dit professeur a appris en regardant les audiences qu'il était lui soudainement menacé de perdre ses responsabilités administratives. Alors la contestation, la liberté d'expression, en certaines circonstances, c'était tout à fait tolérable et en d'autres pas. Et c'est ce qu'on découvre, c'est-à-dire que toute forme de contestation aux États-Unis sur les campus des politiques israéliennes est rapidement associée à de l'antisémitisme basique. Et plus encore, il y a des politiques républicains qui disaient, oui, c'est un appel au pogrom. Alors, tu sais, si tu avais à me demander le choix que j'ai entre un stage de sensibilisation à la guerre humaine que mènent les forces israéliennes à Gaza de deux semaines et où deux semaines avec des étudiants juifs aux États-Unis sur un campus pour voir ce qu'ils subissent comme haine, ben je prendrais la deuxième option. Je suis certain qu'ils se font écœurer. Je suis certain qu'il y a des débiles qui, effectivement, profitent de l'occasion pour proférer un fiel antisémite barbare et inacceptable. Tout ça est tout à fait possible. À ce jour, quand on fait l'inventaire, alors il y a eu des escarmouches, il y a eu toutes sortes de choses. La vie, d'une certaine façon, parce que en société, particulièrement aux États-Unis, tout ne se fait pas pacifiquement. Et je pense que l'interdiction de l'accès au campus ou aux classes de certains étudiants parce qu'ils seraient juifs, c'est totalement inacceptable. Mais je préférerais ce stage de sensibilisation, parce qu'au total, je pense que c'est peinant, c'est frustrant, c'est vexant, mais c'est en général, alors il y aura certains doutes des gens pour me dire « je ne sais pas de quoi je parle », mais quand tu fais l'inventaire des anecdotes, c'est à ce jour relativement contrôlé. Le ton, ce qui est dit, désagréable au possible si... tu es sensible à la cause israélienne et j'en suis. Mais c'est le principe de la liberté d'expression aux États-Unis à plus forte raison, parce que le discours haineux est même couvert par le premier amendement. Tu peux dénoncer quelqu'un, dire, encore une fois, pas d'appel à la violence. Mais là, c'est là que c'est pour moi totalement abracadabrantesque. Tu as le gouverneur Abbott du Texas qui en 2019 s'est fait un capital politique extraordinaire. Pourquoi? Pour déclarer que les campus universitaires et leur espace commun étaient par définition ouverts au débat de contradictions à tous les points de vue, sans enfreindre les règlements internes, sans créer de circonstances de violence. Alors, on pourra toujours dire que les campements vont aboutir à de la violence. À ce jour, les incidents les plus violents ont été le fait d'affrontements entre les policiers et les manifestants. Des centaines d'arrestations au cours du week-end dernier. Et enfin, c'est surprenant que donc le camp de la droite américaine qui s'est battu, et j'étais avec eux là-dessus, pour que la liberté d'expression, la possibilité de contester, la théorie critique de la race, par exemple, parce qu'il était possible de la critiquer sur les campus universitaires, d'avoir une opinion divergente, c'était souvent très, très difficile. Est-ce que c'est absurde? Oui. Est-ce que c'était nécessaire de pouvoir en débattre? Puis je dis ça parce que c'est évidemment l'exemple incarné, facile et peut-être même un peu poussif qu'on donne tout le temps. Mais pourquoi pas? On avait le droit, et on a toujours le droit, spécialement à l'université, de se battre pour des idées ou contre d'autres idées. Dans ce cas-ci, Columbia, je reviens à ce qui est un peu le point de départ de ces incidents, c'est une institution hyper politisée, c'est-à-dire qui a toujours fait le choix de dire, quand vous venez étudier chez nous, vous allez vivre en microcosme ce qui se passe partout dans le monde. Ça va être une confrontation d'idées, ça va être des débats, ça va être... pas juste en classe. Le campus s'est toujours vu comme une espèce d'incubateur du grand monde. Si tu vas étudier à Columbia, c'est justement parce que tu acceptes qu'il y a une diversité de points de vue, que justement sur les affaires du Proche-Orient, un département extraordinairement compétent, puissant, population arabophone et juive, probablement qu'aux États-Unis, c'est un des campus où il y a une représentation des étudiants juifs la plus importante. Mais en même temps, à côté de ça, des étudiants arabophones qui viennent ou des États-Unis ou du Proche-Orient, qui par définition n'ont peut-être pas la même vision de ce qui se passe. Et c'est pas en soi très grave. Tu dis, s'ils peuvent pas en débattre de façon sans doute musclée et désagréable, mais relativement, pacifiquement là, comment peux-tu penser qu'un jour, chez eux, on trouve une solution? Alors, c'est désagréable, c'est inquiétant, mais ce qu'a réussi à faire la présidente quand elle a décidé sur place au Congrès, présidente de l'Université Columbia, de faire ce qu'elle a fait, elle a un peu allumé le feu, et quand elle a appelé les policiers, parce que c'est ce qu'elle a fait aussi, c'était la première fois, je pense, en 20 ans, sinon en 15 ans, que Columbia disait « venez à notre rescousse », pour vider les tentes, le camp, ça ne fait qu'ajouter. Et aujourd'hui, pour avoir passé un peu de temps ce week-end à écouter des étudiants, des gens des différentes facultés, même s'ils ne sont pas d'accord, souvent les professeurs, avec ce qui est exprimé par les étudiants pro-palestiniens, ils disent sur le fond, sur le principe, on peut pas chez nous gérer comme ça les affaires. Puis à terme, c'est une vraie crise politique, c'en est une en Europe, c'en est une en France, les élections européennes, le 9 juin. Alors, il se trouve qu'il y a, à part une gauche, je dirais, quasi-stalinienne, pétrifiée, qui vent debout, se bat pour la liberté d'expression des Palestiniens, mais c'est une gauche qui est souvent déclassée. Il y a une certaine unanimité dans la classe politique, centre-droit, centre-gauche, droite, droite et extrême-droite, pour dire il faut empêcher ça à Sciences Po, il faut interdire ces manifestations. Donc, une certaine unanimité qui s'est faite ici. Mais ça fait que le débat sur la question israélo-palestinienne est central à des élections européennes où il y a beaucoup d'enjeux pressants pour les électeurs qui, à la rigueur, je te dirais, dépassent les enjeux du Proche-Orient, mais qui sont peut-être pas déclassés, mais marginalisés par le conflit, qui est devenu un conflit quasi local. Et je fais le pari que M. Biden, M. Trump auront tous les deux à composer avec ça au cours des prochaines semaines et des prochains mois, comme en 1968. Il se trouve qu'en 1968, la convention démocrate avait déraillé. Ça avait été extraordinairement violent. Est-ce que ça va se reproduire à Chicago en 2024? C'est certainement pas un souhait, mais je sais pas si tu as vu, en fin de semaine, c'était le dîner des correspondants.
Il y avait manifestation devant le Hilton.
Il y avait, alors, je vois que tu avais les yeux là-dessus. ça c'est sagement fait, mais il n'y aura pas beaucoup d'endroits où M. Biden va se présenter, puis ça arrivera peut-être aussi à Trump, où il n'y aura pas des manifestants, où on ne va pas rappeler, il y a des gens pour écrire et pour scander « Genocide Joe ». Alors, je pense pas que c'est une majorité d'Américains. Je pense pas non plus qu'ils soient responsables de politiques génocidaires. Mais pour plusieurs, il est complice de quelque chose. Et ça va le suivre, ça va le poursuivre. Est-ce que le possible cessez-le-feu pourrait, je dis bien possible, parce qu'il y a eu plusieurs fois où on en a discuté d'un cessez-le-feu, est-ce que ça pourrait aider la cause et faire baisser la tension? Moi, j'en doute. Je pense pas que d'ici novembre, les choses soient beaucoup plus détendues. Je l'espère, mais j'y crois pas.
L'acteur Gérard Depardieu, qui, encore une fois, est visé par des histoires d'agression sexuelle sur des plateaux de tournage.
Non seulement il est visé, mais là, il est mis en garde à vue. Ça signifie qu'il est retenu par les autorités pendant 48 heures, si je me trompe pas, pour lui poser des questions, pour avoir sa version des faits. Et aussi, quand ce genre de procédure est déployée, c'est pour faire pression sur quelqu'un. C'est pas agréable que d'être retenu contre son gré, d'être interrogé par les policiers. C'est donc deux nouvelles affaires. Deux femmes qui parlent d'agression qui auraient eu lieu sur un tournage en 2014 et en 2021. Ça s'ajoute à toute une kyrielle d'autres accusations et d'autres dérives, disons les choses comme ça, parce que à l'automne dernier, on a beaucoup parlé de Gérard Depardieu en raison de propos qu'il a tenus quand il était en Corée du Nord et qu'on tournait un documentaire autour de ce voyage, des extraits, parce que le documentaire n'a jamais été monté et produit, mais des extraits sont tombés entre les mains de journalistes d'enquête ici, complément d'enquête, une émission très, très, très écoutée à la télévision. Et ils ont fait un long reportage sur l'affaire Depardieu qui a enflammé la place publique pendant quelques journées. On ne parlait que de ça, je dis quelques journées, sinon quelques semaines, des tribunes pour Gérard Depardieu, d'autres contre. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que le rapport que la France a à ces histoires est loin du rapport que nous avons en Amérique et au Québec. Il n'y a pas la même unanimité, le même empressement systématique à assassiner, faire taire et dire que l'affaire est entendue. Le meilleur exemple ou le pire, selon les points de vue, c'est le président, M. Macron, qui, à l'automne dernier, justement, dans la foulée, a désavoué d'abord sa ministre de la Culture qui avait parlé de retirer la Légion d'honneur à Gérard Depardieu. Ses avocats avaient dit, on est à la disposition d'ailleurs des autorités s'ils veulent instruire l'affaire puis nous retirer la Légion d'honneur. Le président qui avait donc assez ouvertement choisi de contester la position de sa ministre de la Culture, qui d'ailleurs a perdu sa job au remaniement suivant, mais surtout avait dénoncé l'esprit de meute qui animait les médias et la société française en nommant très précisément Gérard Depardieu, en disant que c'était une chasse à l'homme qui avait été organisée. Alors, politiquement, ça avait eu l'avantage à ce moment-là de détourner l'attention d'échecs législatifs du président de la République. C'est ce qu'on appelle un contre-feu. Mais c'est un contre-feu, pardonne l'expression, mais j'allais dire crissement, je veux dire fichument audacieux, parce que c'est de prendre le risque de se mettre à dos, évidemment, une partie de l'électorat féminin, puis des hommes aussi qui questionnent les comportements de M. Depardieu. Mais ce que rappelait, par ailleurs, assez justement le président, c'est que tant et aussi longtemps que la justice n'aura pas été rendue, on veut présumer d'abord de ce qu'il y a une possible présomption d'innocence, et que par moment aussi, il y a une espèce d'unanimité, ce qu'il appelait l'esprit de meute, qui est à questionner. Alors, je pense pas qu'il se solidarisait des propos, par exemple, de Gérard Depardieu, qu'on a entendu dans le documentaire.
Ah non, c'était des propos tellement dégradants.
C'était dégueu.
Ah oui, oui.
Ce que rappelait, alors quand je disais tout à l'heure qu'il y a entre l'Europe et l'Amérique deux visions des choses, est-ce que tu imagines Justin Trudeau ou François Legault dans une affaire qui nous animerait dire attention aux chasses à l'homme et l'esprit de meute, il faut s'en méfier? j'ai pas vu, entendu ou imaginé que c'était possible. Alors, on pourrait se réjouir de ce que c'est pas possible chez nous. Ici, c'est radicalement différent. Et il y a des tribunes aussi, il y a des gens qui ont signé des pétitions en octobre dernier ou en novembre dernier pour dire, un instant, ne confondez pas l'homme et l'acteur. Est-ce qu'il faut le faire? La question là-dessus est encore entière. Mais je constate qu'on vit vraiment avec la même partition, mais des interprétations très, très différentes.
C'est très bien dit. Merci beaucoup, Stéphane.
Salut.
Salut.